Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h48, les grands débats ce matin. Lydia Guérous, Elisabeth Lévy, vos appels et au 0826-300-300 si vous voulez bien entendu débattre sur les questions du jour peut-être,
oui,
Patrick.
Allez, allez. Bien sûr.
Qu'est-ce qui
on
fait
va
la
commencer,
différence,
on va commencer par vous au 0826-300-300. Parlons
avec Christian de Béziers.
Bonjour Christian.
Bonjour Christian.
Bonjour, bonjour à tous les deux, avec un beau soleil du côté de Béziers, donc... Profitez-en, demain il va pleuvoir.
Ah bon, c'est vrai, il va pleuvoir demain.
Mais c'est bien qu'il pleuve aussi un petit peu, non?
Mais non, mais on a besoin d'eau. On va faire un sujet demain ou après-demain, parce qu'on a besoin d'eau, les nappes phréatiques par endroit sont vraiment très basses, il n'a pas beaucoup plu, et donc non, mais c'est une véritable préoccupation avant l'été. Bon, on va pas faire la météo quand même, ou la météo politique plutôt, sur ce second tour de la présidentielle. Mon cher Christian.
Bon, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, je vais faire partie du camp des indécis ou du camp des abstentionnistes. Et pourquoi? Tout simplement parce que la première question qu'il faut se poser pour chacun des candidats est la suivante.
Ouais.
Concernant Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il a collationné un petit peu l'ensemble des propos de ses concurrents et qu'à 3 jours ou à 4 jours des élections, il nous fait des propositions. Alors ces propositions, je ne les juge pas, hein, attention, hein, pour être très clair. Mais ce que je me pose comme question, c'est notre candidat, il avait quand même 5 ans pour mettre en place un certain nombre de politiques en vue d'améliorer la vie de ses citoyens, et il se réveille 4 jours avant les élections.
Alors c'est ce que disait Olivier Dussopt. Olivier Dussopt disait qu'il avait pris les meilleures idées des candidats et il l'assume,
c'est ça,
hein, visiblement.
Tout à fait. Et en ce qui concerne... Oui, mais enfin, attendez. Moi, j'ai eu pas mal de monde dans mon entreprise. Hein, des gens qui s'amusent à tourner en rond au dernier moment ou des gens qui s'amusent à tapillonner, je les garde pas dans mon équipe. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. À un moment, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et puis surtout, il faut être capable de confirmer, d'être convaincu, de convaincre les autres et de le mettre en place après. Pas tout de faire des promesses, il faut les appliquer derrière. En ce qui concerne Marine Le Pen, effectivement, vous avez un de vos interlocuteurs qui l'a dit tout à l'heure. Alors, elle a, comme à tout, qu'elle n'a jamais gouverné. Donc, on ne sait pas, effectivement, ce qui va se passer. Par contre,
à tout
c'est
faiblesse, parce que
inquiétant. Prenez-le plutôt comme atout, puisque aujourd'hui on a l'exemple de Macron au départ, qui avait comme atout qu'il n'avait jamais gouverné, et il a doublé les partis traditionnels.
Ouais.
Par contre, la faiblesse qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle manque complètement de rigueur quant à l'explication de la manière dont elle va programmer ses finances et dans la manière dont elle va effectivement mettre en place un certain nombre d'objectifs qui sont très bien, mais avec quels moyens et qui va supporter ces dépenses et comment on va effectivement arriver à équilibrer nos budgets. Ouais. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces deux réflexions-là m'amènent à dire en synthèse, un, il y en a un, c'est une girouette, je ne voterai sûrement pas pour lui, et l'autre, je suis assez inquiet sur la manière dont elle va mener la barque.
Ouais.
Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais je voterai pour le troisième parti, qui sont le Parti Blanc ou les abstentionnistes.
D'accord. Bon, bah, très bien. Merci en tout cas. Merci de votre argumentation très posée, Christian. Dans une période où c'est plutôt un peu agité, Lydia Guérous, Elisabeth Lévy, un mot de commentaire ce que disait en fait Christian. On commence par Elisabeth. Elisabeth.
Non, bah là, si vous voulez, on a affaire. C'est ce que je disais. On peut combattre d'ailleurs chacun des deux candidats avec des arguments légitimes et des méthodes légitimes. Donc là, bah c'est une argumentation tout à fait audible, c'est intéressant, ça apporte quelque chose au débat. En revanche, c'est pas ce à quoi on assiste maintenant. Je vous ai cité quelques éléments, vous avez aussi cité je me rappelle pas son prénom, Boudjelat.
Oui, Boudjelat.
Boudjelat. Vous l'avez cité, Olivier Dussopt. C'est-à-dire là on a affaire à de la démonologie, on est dans la religion. Alice Coffin qui nous explique que les militants de féministes vont mourir si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Bon, à vrai dire, je pense qu'à un moment, il vaut mieux en rire. Mais je crois que moi, ce qui me pose un problème, si vous voulez, c'est que derrière Marine Le Pen, il y a des électeurs et que ces électeurs expriment depuis des années des inquiétudes. Ils portent depuis des années un parti qu'on peut dire populiste, moi je n'appelle pas ça l'extrême droite, ils donnent leur voix à un parti, disons, populiste, pour aller vite.
Ouais.
personne, si vous voulez, ils ont écrit dans le désert. Donc les leçons de maintien, si vous voulez, de la France raisonnable, qui pense bien, qui va à l'université, etc., à la France qui roule en diesel, ça commence à bien faire.
Ouais, ouais. Le Pen bashing est-il justifié, Lydia Guirousse?
Je pense que c'est pas la meilleure solution pour convaincre les électeurs qui seront séduits par Marine Le Pen de ne pas voter pour elle. Moi, j'aime pas trop les méthodes de bashing. Je pense qu'il faut aller sur le fond, sur le programme, réussir à démontrer en quoi il sera pas constructif pour la France. Mais la morale ou la stigmatisation, c'est pas la meilleure des méthodes. Et c'est vrai qu'on a vu se multiplier les tribunes d'artistes, de sportifs. Et je trouve que ça a un côté un peu dépassé.
Ouais.
Dépassé, que ça ne fonctionne pas. Il y a des éléments programmatiques.
Au contraire, ça peut même réveiller ça peut agacer, réveiller un certain sursaut en disant stop,
oui,
on a marre
s'en
de
servir.
Nous faire de leçons, quoi, en quelque sorte.
Et, je pense qu'elle essaye déjà de s'en servir en disant c'est le candidat du système contre nous. Donc je crains que ce soit contre-productif dans une certaine mesure. Ouais. Voilà, il y a tellement d'éléments de programme sur lesquels ils peuvent appuyer.
Oui, bien sûr.
Voilà, et on parle à la raison. C'est plus intéressant et je pense que c'est plus stratégique de le faire comme ça.
Oui, Elisabeth.
Je peux ajouter juste un mot, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec Lydia. Par exemple, je pense que sa proposition d'un rapprochement entre la Russie et l'OTAN, si vous voulez, elle a soi-disant d'avance, soi-disant de retard, si vous voulez. Mais dans ce qui se passe actuellement, ce serait pas, mais si elle était au pouvoir, ce serait quand même pas de bonne politique, me semble-t-il, de proposer à la Russie un rapprochement. D'abord, la Russie n'en voudrait pas.
Ouais.
Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, évidemment. Elle a pas dit avec Poutine, mais si vous voulez, c'est une question de timing. Et ça, par exemple, bien sûr, il y a des gens qui l'ont dit, mais en réalité, on passe beaucoup plus de temps, Lydia a raison, à dire qu'elle mange des enfants au petit déjeuner, si vous voulez, qu'à décrypter, démonter ses propositions ou ce voilà. Je me demande, si vous voulez, si dans le fond n'a pas disparu de cette campagne.
Ouais.
D'ailleurs, Christian le soulève hein, quand il dit que tout ce qui est financement de la campagne des propositions de Marine Le Pen, on se demande comment elle va faire, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'argent magique et que les propositions, c'est
chez
pas
Emmanuel
trop...
Macron aussi.
L'argent magique, quand tout à l'heure Olivier Dussopt, je lui posais la question, il y a le quoi qu'il en coûte quand même. Alors, il y avait une crise.
Qu'est-ce qu'on fait sans le quoi qu'il en coûte? C'est gentil, parce que sinon les restaurants
non, mais la non-réponse d'Olivier Dussopt était géniale.
Les magasins, enfin, c'est le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il a été unanimement salué.
À partir du moment où on a fait ce choix de tout fermer, il y a des endroits où on n'a pas tout fermé, où on a fait fonctionner encore les choses, où on n'a pas fermé de la même manière. Je pense en fait à l'Espagne, je pense en fait à la Suède, je pense en fait au Danemark, je pense même à l'Allemagne à un moment donné où, mais c'était un choix. Mais après, financièrement, il faut être capable de l'assumer. Et donc, on a un endettement qui est quand même conséquent.
C'était intéressant l'interview d'Olivier Dussopt, parce que, si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est que vous aviez vos questions, cher Patrick, excellentes, et il n'avait pas ses réponses. C'est-à-dire qu'il n'a, sur cette question-là de l'endettement, ça a été une magnifique non-réponse, je dois dire.
Ouais. Allez, dans un instant, on va poursuivre avec Emmanuel Macron qui a fait de la peinture ce week-end. Peinture verte, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'était à Marseille. Il s'est verdi. Et c'est Éric Revel qui tient le pinceau. Il va nous dire comment il va faire, quoi. Dans un instant, et vous pourrez commenter si le tableau est beau ou pas. Vous nous appelez 0826 300 300, dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et dans un instant, la suite des grands débats, Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy, en attendant, Revel en campagne.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Éric.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors on revient sur le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille, en demi-teinte en termes de mobilisation, mais une teinte, on le disait tout à l'heure, il avait choisi du vert, évidemment, comme peinture, et écolo revendiquait la main sur le cœur,
Oui. Alors Emmanuel Macron affiche une ambition écologique nouvelle. C'est un tournant, c'est un virage, c'est une mue, c'est un cap, c'est une péninsule verte. Il l'a dit lors de son meeting de Marseille samedi. Alors le président candidat n'avait pas de mots assez verts pour développer ses intentions de faire de la France, je le cite, une grande nation écologique. Macron veut que la France soit le premier pays à sortir des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, et jure à qui veut l'entendre, d'aller deux fois plus vite pour réduire les gaz à effet de serre. Macron réélu s'est promis, ce serait un Premier ministre New Look en charge de l'écologie qui piloterait directement la question, verte donc, avec deux adjoints ministres forts, l'un en charge de la planification écologique territoriale, avec les élus locaux bien sûr, et l'autre de la planification énergique, fermez le banc.
Bon, vous utilisez le terme planification, c'est Mélenchon qui l'avait utilisé aussi le plus souvent pendant la campagne du premier tour.
Oui, oui, vous avez raison, ce terme de planification, ou même un autre terme, l'avenir en commun, utilisé par Emmanuel Macron samedi, bah oui, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le texte, comme d'ailleurs l'objectif de rénovation thermique de 700 000 logements par an sur toute la durée de son quinquennat, de son nouveau quinquennat éventuel, c'est une proposition, oui, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, alors, ne va pas jusqu'à parler de décroissance ou de sortie du nucléaire, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Macron ne se contente plus de faire du pied à l'électorat du leader de la France insoumise. Macron en lasse, Macron embrasse presque tout le programme écolo-mélenchoniste.
Et ce ripollinage en vert, est-ce que c'est une posture électoraliste, selon vous ?
Bah, vous répondez déjà un peu à la question, mon cher Patrick. Oui, objectivement, ce programme écolo est sans doute purement électoraliste, même si, évidemment, la question du climat est évidemment centrale dans la tête d'Emmanuel Macron. Purement électoraliste, car en 5 ans de quinquennat, il a souvent reculé le président sur l'écologie. Par exemple, il a enlevé, sous la pression de la rue et des gilets jaunes, c'est vrai, il a enlevé, vous en souvenez, la fameuse taxe carbone qui, au-delà d'un impôt supplémentaire, était censée amorcer la transition, justement, écologique. Au rang des échecs cuisants sur cette question écologique, souvenez-vous de la démission en 2018 de Nicolas Hulot, alors numéro 3 du gouvernement, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Hulot avait claqué la porte, sans prévenir d'ailleurs Emmanuel Macron. Cette démission avait fait tache et pollué l'image écolo de Macron premier. Hulot avait dit en partant qu'il en avait marre de mentir sur la question écologique, rien que ça. Mais là, c'est juré et promis, Patrick. Emmanuel Macron, s'il est réélu, sera plus vert que vert. Il est largement en tête, c'est vrai, dans les sondages. Il y avait la chasse aux œufs de Pâques ce week-end. Il y a la pêche aux voix, en tout cas jusqu'à dimanche prochain, qu'on se le dise.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut avoir une influence, en fait, sur le choix définitif pour le second tour Elisabeth Lévy, Lydia Guirous et Éric Revel, toujours avec nous. Et puis les auditeurs, dans un instant. Un petit mot, Elisabeth, oui.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent Emmanuel Macron, si vous voulez faire tout ce que vient de faire le racolage dont Éric vient de nous parler... si vous voulez, eux, ils se disent pas, c'est juste pour parler, ils se disent, ça va encore être notre fête. C'est-à-dire, je vois, le problème dans ce pays, si vous voulez, c'est que l'écologie est un truc d'urbains, bobos, qui n'ont pas besoin de leur bagnole, qui gagnent plutôt bien leur vie et qui peuvent consentir des sacrifices. Et paradoxalement, c'est pas du tout, enfin paradoxalement non, mais si vous voulez, quand vous faites 100 bornes par jour pour aller bosser etc., que vous avez du mal à vous chauffer, que c'est peut-être pas votre préoccupation première, voilà. Donc je crains que ce soit, et ça je le crains vraiment, parce que ça a été le début des gilets jaunes, mais je crains qu'il y ait vraiment une fracture, que ça devienne, si vous voulez, un truc de riche, l'écologie.
Oui, moi je pense qu'il y a une conscience de tout le monde, parce qu'on le voit aussi, la conscience elle passe déjà par le chéquier et la carte bleue quand on va faire le plein de l'essence. Donc il y a, on se dit que c'est de plus en plus cher et que pour aller travailler, ça coûte de plus en plus cher. Donc s'il y a d'autres solutions, tout le monde est preneur. Lydia Guirous.
L'écologie en fait concerne tout le monde, comme vous le dites, Patrick Roger, parce qu'effectivement on le voit dans le portefeuille. Il y a deux impasses. Il y a l'impasse de l'écologie punitive et il y a l'impasse de la décroissance qui est proposée. Et il ne faut absolument pas aller vers ces voies. Mais effectivement, Emmanuel Macron à Marseille a beaucoup parlé à l'électorat écologiste et l'électorat de gauche qui est quand même très marqué par ces questions-là, et notamment les jeunes qui avaient fait la marche sur le climat, qui étaient derrière Greta Thunberg et qui votent maintenant et qui ne veulent pas choisir pour beaucoup d'entre eux. Donc il essaye d'aller les chercher. Il a rappelé son bilan. Bon, on s'en souvient presque plus, mais il y avait Brune Poirson qui était secrétaire d'État, qui avait mené toute une bataille contre le plastique. Donc, il l'a rappelé.
Sûr. Et pour l'économie circulaire.
Et pour l'économie circulaire. Donc, il a quand même un bilan sur ces questions-là qu'on avait oubliées. Et bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui a une sensibilité plutôt de droite, moi, en regardant le meeting, je me suis dit, ouais, il repeint bien en vert et il parle beaucoup à la gauche. Donc, c'est vrai qu'il doit là réussir à élargir, mais sans perdre ceux qui étaient déjà convaincus. C'est un grand écart qui peut être difficile, mais c'est le jeu du second tour. Il faut élargir, rassembler et puis amender son programme.
Oui, Éric Revel.
Le jeu du second tour, c'est de mentir, en gros.
Non, c'est pas de mentir, c'est de faire évoluer pour rassembler l'ensemble des Français. Tous les candidats le font, Elisabeth.
Oui, oui.
Mais j'ai pas dit qu'elle le faisait. D'abord, il y en a plus que deux, donc.
Les candidats l'ont toujours fait. Vous êtes une observatrice.
Mais j'ai pas dit que c'était.
Mais
vous trouvez ça. Moi, si vous voulez, j'ai quand même un peu de mal que ce soit avec l'un ou avec l'autre, avec des promesses qui apparaissent ou qui disparaissent au gré de ce que demandent les électeurs. Et je pense que c'est une façon de faire de la politique, si vous voulez. Excusez-moi, quand Emmanuel Macron, puisqu'on parle de lui, arrive en disant la retraite ce sera pas 64 ce sera 63 c'est 65, on se dit mais c'est 65 et 64 pardon
ouais
mais si vous voulez il y a un petit problème quand même et c'est pas simplement vous avez raison ça n'est pas spécifique à Emmanuel Macron le problème c'est qu'on a l'impression que pour être élu dans ce pays il faut raconter des cracks
c'est pas des cracks que de faire évoluer un projet je comprends pas. Enfin, discuter, amender, essayer d'ajuster, c'est pas raconter des cracks, c'est essayer de le rendre le plus, qui parle le plus aux Français. Enfin, je vois pas.
Je dois avoir mauvais esprit et vous bon esprit.
Je pense que vous avez toutes les deux raisons. C'est-à-dire que d'un côté, quand on est au premier tour, là, on peut aller sur ses idées principales et ensuite, quand on se retrouve à deux, quand on est à 12, on défend et quand on se retrouve à deux, on rassemble au maximum. Pour essayer, avec une partie de promesses qui n'engagent que ceux qui les prononcent d'ailleurs. Éric Revel.
Gouverne pas pour 20%.
Écoutez, c'est pas une nouveauté malheureusement qu'il faille mettre sur la table des promesses auxquelles on croit ou on croit pas trop. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'abstention est tellement forte dans notre pays. Malheureusement, à chaque élection présidentielle, on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes promesses et aux mêmes désenchantements à mi-mandat ou à fin mandat. Mais si Emmanuel Macron est réélu, de toute façon, il n'aura pas à tirer son bilan puisqu'il ne pourra pas se représenter une troisième fois. Donc ça n'engage que ceux qui écoutent les promesses. Moi, ce que je note quand même dans son virage vert, c'est qu'il y a un truc qu'il peut faire en disant qu'il aura tenu ses promesses, c'est nommer un Premier ministre qui serait en charge directement du dossier écologique. Ça ne coûte pas un euro. Ça donnera l'impression qu'il met en œuvre, on verra ce qu'il y a derrière, une politique écologique. Et ça, c'est assez facile à tenir. Maintenant, il faut peut-être lui dire une chose, c'est que si il nomme un spécialiste de l'écologie ou quelqu'un qui a une sensibilité écologique forte, attention à ce que ça ne tourne pas au fiasco que je rappelais tout à l'heure avec Nicolas Hulot, qui avait quand même rang de ministre d'État.
Vrai.
Il était numéro 3 du gouvernement. Et lui, il est parti en claquant la porte, je le rappelais aussi tout à l'heure, sans prévenir Emmanuel Macron. Il l'avait fait sur une radio en annonçant qu'il démissionnait de son poste tellement qu'il en avait ras-le-bol d'avaler des couleuvres qui n'étaient pas vertes. Donc attention au retour de bâton, mais dans l'éventualité d'un second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui lui demanderait des comptes au bout de ce quinquennat? Pas grand monde.
Oui.
Et pourtant, c'est une question très sérieuse.
C'est valable dans les deux sens, bien sûr, aussi pour ce rassemblement. Marine Le Pen, c'est également la même chose. Lydia Guérous, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que, par exemple, sur le voile, elle change un tout petit peu en fait d'attitude sur deux, trois autres questions. Sur l'éolienne également, elle dit on va revoir, on va peut-être pas tout démonter parce que ça va coûter trop cher.
La retraite, on comprend pas très bien ce qu'elle veut faire.
C'est vrai.
Sur la retraite, elle dit 62 ans.
62 ans.
Mais si vous avez commencé à travailler à partir de 17 ans, ce qui veut dire que si vous avez commencé à travailler à 25 ans, c'est plus 62 ans. Enfin, il y a quand même quelque chose
Il y aura des annuités, bien sûr.
Vous partirez peut-être à 62 ans, mais pas à taux plein. Et tout ça, ça passe. On ne le souligne pas, on ne le soulève pas. Et c'est quand même des éléments qui sont importants. Donc, sur son panier alimentaire, on ne sait pas de quel produit lui il s'agit. Puis là, la fameuse proposition de 100 000 euros prêt au zéro pour les familles qui ont trois enfants, il ne faudrait pas rembourser. Donc en gros, c'est un cadeau de 100 000 euros pour les primo accédants.
On a déjà vu ça. Hein. Il y a déjà eu en fait. Il y a eu effectivement.
On n'a jamais vu sans remboursement.
Sans rembourser, je me demande si ça n'a pas existé, mais ce n'était pas à ce niveau-là.
C'était peut-être 10 000 euros, mais pas 100 000 euros sans rembourser. Donc là, ça fait un peu le gros chèque gratuit.
Oui. Elisabeth Lévy.
Non, mais moi, je crois vraiment que la grande difficulté, c'est ce qu'on appelle c'est l'arbitrage fin du mois, fin du monde, si vous voulez. Et que si on suit le programme, Lydia l'a dit d'ailleurs, vous avez dit, il y avait deux écueils, il y a la décroissance et l'écologie punitive. Si on suit le programme des écolos purs et durs, si vous voulez, on crée une guerre civile en France. On crée une telle crise sociale.
Par exemple, sur le voile, on l'a vu. Mais et sur le voile, par exemple, Marine Le Pen, elle change aussi un peu.
Moi,
quoi.
Sur le voile, si vous voulez, j'ai toujours été opposé à la proposition consistant à interdire le voile dans l'espace public parce que je veux vivre dans une société libérale. Et je pense que effectivement, elle a raison de la même façon, si vous voulez, elle a plutôt raison de l'enlever de son programme ou d'évoluer là-dessus. Et Emmanuel Macron a plutôt tort, si vous voulez, de célébrer ça comme le Conseil de l'Europe, vous savez. Le voile, c'est la liberté.
Mais elle le fait pas un peu tard.
Mais attendez, pardon, je finis. Je pense qu'on se trompe d'argument sur le voile. C'est-à-dire, moi, j'en ai ras-le-bol de cet argument. Elles sont libres, elles sont pas libres, elles le font pour elles. Je m'en fiche, si vous voulez. Le problème du voile n'est pas c'est les femmes musulmanes qu'elles le portent ou pas, si vous voulez, effectivement, c'est leur conception de la liberté, ça les regarde. En revanche, pour moi, c'est contraire aux mœurs française. Et donc, il me pose un problème, je ne souhaite pas l'interdire dans l'espace public pour autant, mais je tiens à pouvoir le critiquer, à pouvoir rappeler que c'est un outil identitaire, un étendard islamiste, inventé par les frères musulmans, et donc je veux pouvoir le désapprouver sans l'interdire.
Oui. Voilà. Allez, 0826 300 300, qui est avec
c'est
nous?
C'est Isabelle qui nous appelle, Isabelle. De Gironde. Bonjour
de Gironde.
Isabelle.
Pardon, on vous a fait un peu tarder, mais la discussion a été plus longue que prévu. Isabelle, bonjour.
Et bonjour, merci de me faire passer à votre antenne. Tout ce que j'entends forcément par rapport à ce que je voulais évoquer, je voulais juste dire que je trouve que globalement les gens sont plutôt amnésique par rapport aux 5 années passées avec Macron. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne parle absolument plus. Enfin bon, ça a démarré avec l'affaire Benalla. Il y a eu McKinsey. On n'en parle plus. Il a quand même emmerdé une partie des Français.
Entre guillemets, emmerdé, bien sûr.
Et qui, pour un chef d'État, je trouve ça quand même très, 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 très grave. Il a mis au banc de la société plusieurs millions de personnes qui avaient fait le choix de ne pas se vacciner. Donc ça, voilà, visiblement, ça choquait pas non plus la grande majorité des gens. Donc voilà, les gens sont... On a l'impression que tout ça s'est oublié. Maintenant, il fait des grandes promesses. Forcément, il promet la Lune, alors que il avait 5 ans pour mettre en pratique tout ça. Il a quand même démantelé la santé. Ses prédécesseurs avaient commencé. Lui, il a largement fini en pleine crise de Covid. Il continue à fermer des lits. Ils ont mis des soignants dehors. Et ça, c'est pareil. Les soignants qui sont dans une précarité et qui ont été mis dehors, qui sont dans une précarité de fou, on n'en parle plus.
Isabelle, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas tout oublier, bien sûr, et puis se porter uniquement vers l'avenir. Mais regardez ce qui a été fait. Est-ce que vous avez fait votre choix, vous, Isabelle?
Alors, moi, c'est sûr qu'il ne sera pas Macron. Alors ça, c'est certain. J'ai toujours...
Mais vous hésitez encore. Vous hésitez encore.
Alors, j'hésite encore. C'est vrai que voter Le Pen, franchement, c'est quelque chose qui serait compliqué pour moi. Mais tout au fond, je me demande si je vais quand même pas voter pour elle, parce que elle, on la diabolise. Mmh. Et Macron, c'est un diable caché. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. C'est, voilà, elle, on la diabolise, et lui, il se cache. Donc c'est pas mieux.
Merci, merci Isabelle d'avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez continuer d'appeler hein, et de réagir à notre débat qui va suivre hein. La vérité en face, merci Elisabeth Lévy, Éric Revel et Lydia Guirous. Dans un instant, notre grand débat, la vérité en face, jusqu'à 10h, Cécile.
Oui, le grand débat sur les programmes avec Laure Lavalette qui sera avec nous, porte-parole du Rassemblement National et conseillère régionale en PACA, et Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et porte parole de En Marche, et vos appels comme chaque matin 0826 300 300. À tout de suite.